Session Introduction à la philosophie première par le père Philippe à Rimont, le 17 avril 1993, cinquième cours.
Ton bras abattu, fatigué. Apparemment, vous donnez le même sens au mot être et exister. Oui, je sais que certains philosophes font une différence. Alors ils prennent l'étymologie. D'une façon courante, quand vous dites il existe, il est. Est-ce que vous mettez une différence dans le langage François? Est-ce que vous mettez une différence? Étymologiquement, exister, ça vient ex-ister. Donc, ça veut dire sortir de la cause. Et c'est pour ça qu'on a dit exister, on ne peut le dire qu'à des réalités qui sont causées. Mais j'avoue que ça, c'est l'utilisation d'un mot en fonction de son sens premier. Or, on doit utiliser les mots selon le langage courant. C'est un petit peu précieux, vous voyez. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, je dis aujourd'hui, que ceci existe, ceci est. J'avoue pas de mettre beaucoup de différence, moi. J'existe. Quand vous dites j'existe, je suis, est-ce que vous avez une tonalité différente dans votre intelligence? Pas moi. Pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et j'ai lu. Vous voyez, par exemple, le philosophe italien Fabro n'aime pas d'employer exister. Il a peur purisme. Je comprends. Il est libre, hein, tout à fait. Il est libre de dire exister, ne se dit que pour les vérités causées. Cette table existe, elle est causée. J'existe. Alors quand on dit j'existe, ça veut dire je suis causé, je suis créé par Dieu. Je peux dire j'existe, je suis. Alors, une autre question. Je le prends tout de suite parce que ça va toucher ce qu'on va dire dans un instant. Alors, c'est une question très radicale. C'est très bien ces questions. La philosophie n'est-elle pas d'essence critique ? C'est-à-dire poser des questions et construire des problèmes. Alors, et donc, non dogmatique, d'accord, non dogmatique, donner des réponses, conclure, s'arrêter dans son rang d'interrogation. Et n'est-ce pas la détourner de son essence que de l'ordonner à la connaissance de Dieu? Et c'est assez radical, hein. C'est très bien si vraiment on l'a écrit, non pas comme une objection qui vous passe par la tête, mais qui est une objection réelle pour nous. Parce que des objections, on n'a qu'à prendre n'importe quel livre, on a des tas d'objections. Il faut que ce soit des objections qui nous touchent. N'était-ce pas la détourner de son essence que de l'ordonner à la connaissance de Dieu? Il faut discuter sur ordonner, vous comprenez? Donc Dieu, objet inconnu des Grecs, ce qui est faux. Toute la philosophie grecque est tournée vers Dieu. Alors là, je regrette. Et là, je peux le dire, je connais mon sujet. Et Aristote dit que Dieu, c'est l'acte pur, ce que saint Thomas a repris. Alors voyez, faut pas dire du tout. Je sais, encore une fois, dans certains manuels, on dit que le Dieu des Grecs n'est pas le Dieu des chrétiens. Comme plein Pascal a dit, le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. S'il existe, c'est l'être premier. Que les traditions religieuses appellent créateur. Oui. esprit. Alors, on ne peut pas dire que chez les Grecs, bon, objet inconnu des Grecs, dans son sens chrétien, alors, vous voyez, ça, équivoque. Dans son sens chrétien, c'est vrai que pour le chrétien, c'est le mystère du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et de la Trinité. Ça, c'est inconnu. Mais le Dieu créateur, non, il n'est pas inconnu. Vous voyez, Proclus, commentant Plotin. Je sais que c'est tardif, c'est deux siècles après Jésus-Christ. Aaron dit qu'il faut distinguer le Dieu créateur et le Dieu père. Il est père des esprits, il est créateur de notre univers physique. C'est beau comme distinction. Vous voyez, c'est pas si loin de ce qu'un chrétien peut dire. C'est un philosophe. Et donc, n'est-ce pas la détourner de son essence que de l'ordonner à la connaissance de Dieu et de la rendre seconde par rapport à un savoir donné d'avance. Vous voyez ? Donc tout problème de la théologie, je présume que c'est ça, un savoir donné d'avance. D'abord, la foi, au sens strict, n'est pas un savoir. C'est recevoir une révélation. Mais je vois ce que ça veut dire. Alors, ensuite, seconde question, dans quelle mesure peut-on parler de la philosophie ? C'est-à-dire d'une philosophie, où chaque philosophe a sa philosophie. Je présume que c'est ça qu'est la question. Troisième question, penser ou essayer de penser Dieu, n'est-ce pas une aberration ? Vous voyez, c'est assez radical comme question. Je veux bien, vous avez le droit de poser toutes les questions, si elles sont vraies. C'est autrement alors, c'est pas la peine. On perd du temps et vous faites perdre du temps à tout le monde. Donc il faut comprendre qu'on n'a jamais le droit de poser une question fausse. Parce que moi je la reçois comme vraie. Alors quand on pose une question fausse, qui ne signifie rien du tout, on fait perdre du temps à tout le monde. Et c'est pas bien, c'est contraire au bien commun. Je dis ça parce que si vraiment c'est pour quelqu'un, voyez, essayer de contempler, parce que en réalité c'est contempler, parce que penser Dieu c'est contempler, n'est-ce pas une aberration? Si Dieu n'existe pas, c'est une imagination. Alors là je suis tout à fait d'accord. Si Dieu existe, c'est l'être suprême, c'est le créateur. Mon âme a été créée par Dieu. Elle est créée par Dieu, maintenant. Et donc, c'est chercher la source de ma vie, de mon être, de ma lumière. Alors, si c'est une aberration de remonter à la source, évidemment, on ne sait pas ce que c'est que la philosophie. Vous savez la manière dont Peggy définit la philosophie. J'aime bien Peggy. C'est un homme assez réaliste. Il y a un poète en plus de ça. Peggy donne la meilleure définition de la philosophie que je connais. Il dit, beaucoup descendent le fleuve. C'est-à-dire qu'ils font comme tout le monde. On est athée avec les athées, on est chrétien avec les chrétiens, on est bête avec les gens bêtes, on est intelligent, tu vois, on essaie d'être intelligent avec les gens intelligents, ce qui est plus difficile. Beaucoup de monde descendent le fleuve. Oui, on suit la mode. Alors Peggy ajoute, les cadavres descendent plus vite le fleuve que n'importe qui. Ça, c'est Peggy. Hein. C'est merveilleux. Parce qu'on pèse plus lourd comme cadavre. Il n'y a plus que le corps que nous. Donc on pèse plus lourd. Le corps n'est plus porté par l'âme. Alors on pèse beaucoup plus lourd. Les cadavres descendent plus vite le fleuve. source. C'est difficile. Il faut accepter d'être seul. C'est le philosophe qui remonte à la source. C'est le propre du philosophe de remonter à la source. Il ne cherche plus, premièrement, les opinions des hommes, il cherche la vérité. Oui, alors, si vous dites que la philosophie, c'est rechercher la vérité, j'ai le droit de parler de la philosophie. Si vous considérez la philosophie comme l'opinion des hommes, vous avez le droit de dire il y a beaucoup de diversité de philosophie. Alors, je prends philosophie au sens le plus fort qui, dans notre Europe, a été accepté par beaucoup. C'est très moderne de dire que la philosophie, c'est l'opinion des hommes. C'est très moderne, c'est en plein milieu de notre siècle. Avant tous les philosophes, c'est la recherche de la vérité. Oui. À la différence de l'idéologie. Ça, j'y tiens beaucoup. La différence entre les idéologies et la philosophie. La philosophie est une sagesse. Elle remonte à la source. Elle cherche de remonter à la source. Elle cherche. Le philosophe cherche tout le temps. Croyez-le bien. Et depuis que je fais de la philosophie, je vous affirme que je découvre toujours des choses nouvelles. Parce que on a une telle peine de ne pas confondre et de ne pas rester dans des a priori. Oui, on a toujours envie de dire à quelqu'un, vous voyez, quand j'écoute ça, je ne vois pas la personne, mais j'ai envie de lui dire, dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit? Si tu dis ça de toi-même, très bien, on cherche ensemble. Si un autre te l'a dit, dis-moi son nom. Parce que ce n'est plus de la philosophie, c'est une répétition, c'est une opinion, c'est pas vous. La philosophie est au service de l'homme. Répéter, ben c'est descendre le fleuve. Il y a un examen de conscience philosophique que les stoïciens réclamaient pour tous ceux qui cherchaient la philosophie. Savoir ce qu'ils disaient d'eux-mêmes dans leur propre recherche et ce qu'ils répétaient des autres. Ça, c'est excellent comme attitude. C'est rude. Hein. Parce qu'au début, il n'y a pas grand-chose hein, de nous. Au bout d'un certain temps, on peut dire oui, j'ai découvert ça. Et, voyez, écouter un cours au plan philosophique, c'est d'essayer d'éveiller l'intelligence à une recherche personnelle. Personne n'est aussi personnel qu'une recherche philosophique. Rien n'est aussi personnel qu'une recherche philosophique. Et en même temps, rien n'est plus objectif qu'une recherche philosophique. C'est ça qui est très étonnant. C'est vrai, c'est très personnel, puisque le philosophe est entièrement engagé dans sa recherche philosophique. Son cœur et son intelligence. Et il est en état d'attente, de recherche, d'interrogation. Il interroge tout le temps. Et c'est pour ça qu'il aime bien les objections. Si elles sont vraies, de temps en temps, c'est une petite saveur faisandée. Alors on se dit, ah ça c'est pas tout à fait ça, ça c'est du... c'est pas ça. Vous voyez ? Et on détecte ça tout de suite, et alors on dit, dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit ? La parole de Jésus à Pilate. C'est, et ça c'est très stoïcien, et c'est merveilleux. Et Pilate est obligé de répondre. Moi je suis juif, moi. C'est eux qui m'ont dit ça. Oui. crois que c'est important, ça. Dans notre vie, vous voyez, c'est la distinction qu'on doit faire par honnêteté intellectuelle. Il y a une honnêteté intellectuelle qui est capitale. Quand on affirme quelque chose, on sait sur quoi on s'appuie. Il peut très bien se faire qu'il y a des domaines qu'on n'a pas encore cherchés, qu'on n'a pas encore découverts. Alors on dit, je m'appuie à ce moment-là sur Heidegger. Et de temps en temps, quand je vous cite Heidegger, c'est pour vous montrer que ces problèmes sont actuels. Même si Heidegger est mort il n'y a pas longtemps. Ce sont des problèmes actuels parce que c'est le problème de l'intelligence qui recherche. Et Platon dit qu'une intelligence qui interroge, c'est l'attitude du chien de chasse qui est en arrêt devant un buisson parce qu'il sait qu'il y a un lièvre derrière. Vous avez déjà vu un chien de chasse en arrêt? C'est très beau. Et puis sa queue se balance. Il est en arrêt. Eh bien, quand on interroge, on est comme ça. On est entièrement pris. Ah, ce sont des interrogations, ça. Alors je réponds, hein, brièvement et rapidement. La philosophie n'est-elle pas des sens critiques? Non. Elle implique une critique. Mais c'est second. C'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'on ne critique que ce qu'on connaît. La critique n'est jamais première. C'est depuis Kant qu'on croit que la critique est première. Mais Kant croit qu'on n'est pas tellement conscient ici. C'est les gens très bien en Allemagne, paraît-il. C'est la grande mode maintenant en Allemagne. La droite allemande est kantienne, ça en dit long. Il faut faire ça. Il faut la conscience impérative. Je dis ça parce que à Fribourg, il y avait un professeur d'éthique qui était allemand, qui est un homme très bien, très gentil. Je lui ai demandé, dans quelle position êtes-vous au point de vue éthique? Oh, moi, je suis kantien. Parce que maintenant, tous les gens bien sont conscients. C'est pas une raison philosophique, hein, les gens bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui circulent avec une redingote, ou avec un chapeau de forme. C'est les gens qui sont... C'est suivre une mode, être un homme bien. C'est descendre le fleuve. Chaque fois que vous dites que vous êtes un homme bien, vous descendez le fleuve. Oh, élégamment. C'est déjà quelque chose de descendre élégamment. Donc, la philosophie n'est pas des sens critiques, mais elle est sagesse. Et la sagesse se défend. Et la critique, c'est d'abord se défendre. C'est-à-dire qu'on a découvert quelque chose et on dit, dites-moi vos objections. Et puis, je vous montrerai que ces objections ne tiennent pas. On se défend. C'est l'attitude réflexive. La sagesse implique une attitude réflexive. Seule la sagesse se critique. C'est très beau, tu vois, ça. Parce qu'elle atteint le sommet. Oui. L'attitude réflexive, on se retourne par derrière. Vous voyez, pensez à quelqu'un qui monte une montagne. Je fais 1000 mètres, je m'arrête et je regarde par derrière. Bon, après avoir repris mon souffle, je fais 1000 mètres, je regarde en arrière. Le paysage est toujours différent, de 1000 mètres à 1000 mètres. Alors, c'est ça le regard critique. Si je ne suis pas au sommet, ma critique est relative. Si je suis au sommet, j'atteins quelque chose d'absolu. Et je peux à partir de là critiquer. Donc la critique est réflexive. Elle n'est pas première. Donc, donc, le rôle de la philosophie, c'est pas de poser des questions et de construire des problèmes. Je regrette. Le philosophe n'est pas un constructeur. Il est un contemplatif. Il cherche la vérité. Il cherche la vérité. Même si c'est très difficile de chercher la vérité, il la cherche. Impitoyablement. Et on cherche la vérité à travers tout. C'est très vrai que la philosophie n'est pas dogmatique. Puisque la vérité, c'est la vérité qu'on cherche. Et la vérité, c'est quoi? C'est dévoiler le réel. Dévoiler la réalité. Dévoiler la réalité, ça n'a rien de dogmatique. Le philosophe ne s'intéresse pas en premier lieu aux conclusions. Ne s'intéresse pas en premier lieu aux réponses qu'il donne. Les réponses qu'il donne, c'est pour se défendre, ce que je fais maintenant. Je me défends. Je suis conscient de ce que j'ai dit. Vous pouvez apporter les attaques. J'y réponds. Je montre que ces attaques ne tiennent pas. Qu'est-ce que j'ai dit de dogmatique jusque maintenant? Rien. On est dans la recherche. Quelqu'un qui vit dans le dogmatisme n'est pas l'interrogation. On obéit. C'est pas la même chose du tout. Bon, alors, ça c'est plus grave. Est-ce que ce n'est pas la détournée de son essence que de l'ordonner à la connaissance de Dieu? Alors, tout dépend de ce que vous comprenez connaissance de Dieu. Si je dis connaissance de Dieu, c'est la foi. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une position de fidéiste. C'est un petit Roland, ça. On peut connaître Dieu par la foi, on peut connaître Dieu par l'intelligence. Et personne n'oserait me nier ça. Parce que s'il ne le connaît pas, il n'a rien à dire. S'il le connaît, qu'il me le dise. Et on verra si ce qu'il dit est vrai. Dieu, je le contemple. Je ne peux pas l'analyser. Parce qu'il est l'être premier. L'acte pur, comme dit Aristote. L'amabilité suprême, comme dit Aristote. Il est le bien en soi, comme dit Platon. Alors, vous voyez, tout dépend de ce qu'on entend par connaissance de Dieu. Si on dit que c'est la foi, je suis tout à fait d'accord, que je n'introduis pas la foi dans ma philosophie. J'en ai pleine conscience. Je sais ce que c'est qu'être un croyant et être un philosophe. Et les deux ne s'opposent pas dialectiquement. Il n'y a pas d'opposition. Aucune opposition. Il ne peut jamais y avoir d'opposition entre l'attitude du croyant et les vérités scientifiques. Mathématiques, philosophiques, jamais. Mais il peut y avoir, pour moi, parce que je ne suis pas un croyant, suffisamment croyant. Alors ma foi est liée à des tas de choses, à des mythes. Ou bien ma science n'est pas assez pure, ma philosophie n'est pas assez pure. Je répète. Et vous savez, quand on répète, c'est comme à l'armée. Au bout de 3 fois qu'on répète, ça fait la contradiction de ce qu'on a dit. Parce qu'on répète mal. Quand on ne connaît pas, on répète mal. On répète matériellement. Et répéter matériellement, c'est justement déformer ce qu'on nous a dit. Alors, il faut comprendre. La philosophie cherche la vérité. Elle cherche à dire quelque chose qui est conforme à la réalité qui existe. Le philosophe s'appuie dans toutes ses recherches sur ce qu'est l'homme. Qu'est-ce qu'il est dans sa complexité et dans son unité? Qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Voilà ce qu'il cherche. Et tout ce qui intéresse l'homme intéresse le philosophe. Je n'ai pas le droit de rejeter quelque chose d'humain à ma philosophie. Et ça, c'est capital. C'est comme ça qu'on a pu dialoguer, que j'ai pu dialoguer pendant 2 ans avec des Freudiens. Parce que tout ce qui intéressait l'homme m'intéresse. Et ça m'intéresse de voir comment, quelquefois, l'homme peut se dégrader. Je ne m'arrête pas trop là-dessus, la manière dont l'homme se dégrade, mais c'est quand même important de voir le rôle de l'imaginaire dans notre vie. Il y a des somnambules vivants. Alors c'est intéressant de dépister la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. C'est quand même important. Mais là, il y a un aspect critique de la philosophie. Je suis d'accord, mais il n'est pas premier. L'aspect premier, c'est la recherche de la vérité à travers tout. Or, la vérité me fait connaître toutes les réalités qui existent. Je ne peux pas, a priori, dire que l'homme est la réalité la plus parfaite qui existe. Je n'en sais rien. Mais je cherche. Et je dois chercher. Existe-t-il un être plus grand que l'homme? Non pas en disant l'évolution, non, actuelle. Existe-t-il un être plus grand que l'homme? L'homme est-il la réalité suprême, la plus parfaite qui existe? Vous voyez? Donc, c'est la réalité que je cherche. C'est pas Dieu, je vous ai dit. Dieu n'est pas un mot philosophique, je vous l'ai dit. Le philosophe cherche les réalités. Il se pose la question, existe-t-il une réalité plus parfaite que l'homme? Et s'il découvre à ce moment-là une réalité première, et s'il essaie de comprendre et de contempler ce que peut être cette réalité première, il dira, cette réalité est conforme à ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Et donc le mot Dieu, il l'emprunte aux traditions religieuses. Il ne faut jamais l'oublier. Et il a le droit de le faire. Parce que les traditions religieuses sont un bien commun de l'humanité. Mais le philosophe critique, d'accord, il critique les traditions religieuses pour découvrir dans les traditions religieuses ce qu'il y a d'authentique. Et ce qu'il y a de mythique, le mythe. Ou au contraire, ce qui correspond à une réalité. Le philosophe doit s'intéresser aux traditions religieuses. Parce que les traditions religieuses, beaucoup d'hommes en ont vécu. Et donc ça prouve que ça donnait quelque chose à l'homme. Si nous existons maintenant, c'est grâce aux traditions religieuses, vous savez. Faut pas l'oublier. Alors ne coupez pas trop vite vos racines. Parce que ça vous retombera sur le nez. Si nous étions, c'est grâce aux traditions religieuses. Il y a des êtres qui avant nous ont vécu de ces traditions religieuses. Elles étaient plus ou moins vraies. Pour le philosophe, la tradition la plus importante, c'est la tradition judéo-chrétienne. Et puis celle de l'Inde. Ce sont les traditions les plus importantes. Et s'il est vraiment philosophe et qu'il cherche le problème de l'origine de l'homme, il se posera la question, est-ce que les traditions de l'Inde sont plus vraies que les traditions judéo-chrétiennes? Mais il doit faire cela, s'il est philosophe. Parce que tout l'intéresse, tout ce qui regarde l'homme l'intéresse. Il n'a pas le droit de dire, ah moi, je ne m'intéresse qu'à cela. En tant que philosophe, il cherche la connaissance la plus parfaite, la plus exhaustive de l'homme. Donc tout ce qui a intéressé l'homme intéresse le philosophe. Mais il aura aussi le souci de voir ce qui peut être vrai et ce qui peut être purement imaginatif. Alors, vu comme cela, vous voyez bien que ce n'est pas détourner la philosophie de son essence que d'essayer de découvrir, de dévoiler l'existence d'un être premier, s'il existe. Et le philosophe se pose toujours la question, s'il existe. Je ne rends jamais la philosophie seconde, même si je suis croyant. Alors je dis non. La philosophie reste sagesse humaine. Qui dit sagesse dit quelque chose de premier et d'absolu. La philosophie reste sagesse humaine. Elle n'est pas subordonnée à la foi. Mais elle peut se mettre au service de la foi. Pourquoi ? Parce que la foi me donne une connaissance surhumaine, divine. Et si la foi me donne une vraie connaissance surhumaine, divine, si le Christ est à la fois homme et Dieu, connaître le mystère du Christ, ce qu'est le Christ, ce n'est pas dévoyer mon intelligence. Puisque mon intelligence, plus elle connaît des réalités grandes, plus elle s'épanouit. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai pour l'intelligence. Si vous ne regardez que des marécages, au bout d'un certain temps, vous en verrez partout. Si vous essayez de comprendre des choses belles, des choses grandes, votre intelligence s'élève. Fréquenter les grands philosophes vous rend intelligent. Fréquenter des hommes médiocres vous laisse dans la médiocrité. C'est un fait, que voulez-vous, faut quand même pas renier ces choses qui sont des choses qu'on voit tout le temps. Et c'est le côté très grave, voyez, de faire qu'une civilisation humaine cache ce qu'il y a de grand et exalte ce qu'il y a de petit. Ça, il faut le reconnaître, pour rester vraiment des hommes qui ont un sens de la dignité de l'homme, de la dignité de la personne humaine. Alors évidemment, je le fais dans la mesure où j'atteins la sagesse. Alors vous voyez, ce n'est jamais abîmer quelque chose, quelqu'un, de le mettre au service d'un plus grand que lui. Jamais ça. Si ce plus grand que lui n'est pas un tyran, du reste s'il était un tyran, il serait plus petit que lui. Le plus grand des tyrans est plus petit que moi. Pourtant, on n'est pas un saint. Mais on essaie d'être un homme. Et le plus grand des tyrans est plus petit qu'un homme. Hitler était plus petit qu'un homme. Parce qu'il était un tyran. Et tous les tyrans sont comme ça. Ceux qui confondent autorité et pouvoir. Et le philosophe est là pour distinguer autorité et pouvoir. Ceux qui ramènent l'autorité à un pouvoir sont toujours des tyrans. et cherche à avoir un pouvoir toujours plus grand. Mais ce sont des discernements très importants aujourd'hui, ça. Parce que tout ça est très confondu. Donc vous voyez, j'ai répondu rapidement à ces quelques points, ça me semble important. Dans quelle mesure peut-on parler de la philosophie? Je l'ai dit. Et puis penser, essayer de penser Dieu, n'est-ce pas une aberration? Non, ce n'est pas une aberration. Dire que théologie, c'est mysticisme, non. Il y a des théologiens qui ont un sens très concret. Regardez ce que dit Bergson à propos de la mystique chrétienne. Alors, on peut très bien ne pas aimer Bergson, je comprends. Mais, lisez des vrais mystiques. Ou essayez de comprendre ce qu'un vrai mystique a fait dans sa vie. Vous verrez qu'il a un sens de l'homme assez grand. C'est pas un fou. La théologie a sa dignité propre à partir de la foi. Elle se sert de la philosophie pour mieux comprendre la parole de Dieu. Mais évidemment, si la foi n'était pas une connaissance divine aussi élevée, je ne pourrais pas mettre ma philosophie au service de ma foi. Vous voyez, pensez toujours à ça, parce que je crois que ça nous aide beaucoup à comprendre. Un exemple très très simple aujourd'hui. Un avion qui vole à... Un avion qui vole à 5. Un avion qui vole à 1000. Un avion qui vole encore plus. Ces avions ne se rencontreront jamais s'ils maintiennent leur ligne. Où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ah. Ils atterrissent. C'est évident. Or, la foi est à intelligibilité divine. Non, c'est infini. La philosophie, sagesse, les mathématiques, les sciences humaines, la fumologie, quel degré d'intelligibilité? Et ça, c'est de la critique. Quel degré d'intelligibilité? Différent. Donc, si la foi est ici, la philosophie ici, mais jamais la philosophie et la foi seront en contradiction. C'est impossible. Il y a le fini et l'infini. Est-ce que vous mettez en contradiction l'infini par rapport au fini? Mais non. C'est impossible. Mais dans l'atterrissage, ah! Et l'atterrissage, c'est où? C'est l'homme. C'est l'homme, l'atterrissage. C'est l'usage que je fais de la science. C'est l'usage que je fais de la foi. C'est l'usage que je fais de la philosophie et des mathématiques. Alors là, dans l'usage, il peut y avoir des oppositions. Mais il faut bien voir où est l'opposition. L'opposition est dans l'usage. Vous voyez, c'est ça qui est capital à comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on dira, ah, l'Église, encore une fois de plus, c'est comme pour Galilée, elle défend quelque chose qui est contraire à la science. Attention. L'Église regarde l'homme et non pas le savant. Et si vous savez, faites attention dans vos applications. Mais tous ces problèmes actuels, et qui sont très importants à bien regarder et pas répéter des choses qui sont complètement faussées par les propagandes, de droite ou de gauche. Toute propagande, c'est de la rhétorique. Alors ne vivez pas de la rhétorique, ne vivez pas de propagande, quoi. Si votre intelligence veut rester intelligente, ne vivez pas de propagande. Essayez de voir la réalité. Ne vivez pas d'apologétique, parce qu'il y en a une de droite et une de gauche. Et l'apologétique, c'est des a priori. C'est de la rhétorique. Il faut avoir le courage de chercher soi-même, par son expérience, la vérité. C'est très rude, je vous l'affirme. Il faut accepter d'être seul. Et c'est pas commode d'être seul. Il faut l'accepter, tant pis. On cherche la vérité. On n'est jamais seul parce qu'on cherche la vérité. Et on rencontre toujours des hommes qui cherchent la vérité. Et alors il y a des amitiés très fortes quand on rencontre quelqu'un qui cherche la vérité. Alors vous voyez, ça c'est très très important de voir que la foi et l'enseignement d'Église, au niveau de la foi, le véritable enseignement d'Église, ne peut jamais être en contradiction avec la science ou la philosophie. Mais c'est l'usage, terrain d'atterrissage. Alors maintenant, je passe vite à la question à laquelle je devais traiter ce soir, mais ne vous inquiétez pas. Vous dormirez vite. Alors, allez très vite. Les sept formes d'idéologie athée. Je ne les donne pas selon un ordre chronologique, ça m'est égal, au point de vue philosophique. Alors, au point de vue philosophique, c'est intéressant à noter. Parce que c'est un phénomène tout à fait nouveau au point de vue philosophique. Il y a toujours eu des athées. Mais il n'y a jamais eu des idéologies athées qui ont eu une telle force de conviction. Ça, c'est un phénomène nouveau. Il faut le reconnaître. Et je me situe faisant ma philosophie après ces idéologies athées. Et je n'ai pas le droit de ne pas les regarder. Et je m'évertue de les regarder. Et je voudrais que ceux qui sont dans les idéologies athées fassent la même chose pour ceux qui font de la philosophie réaliste. Parce que on est des hommes qui cherchent la vérité. Alors si on cherche la vérité, on doit s'entraider. Il y a quelque chose de vrai dans les idéologies athées. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a rien de vrai, c'est pour ça que je m'intéresse. Chaque idéologie athée met en lumière un aspect particulier de l'homme. Parce que ces idéologies athées sont des anthropologies de l'homme. Ils cherchent à découvrir l'homme dans sa plus grande autonomie. Alors, premièrement, positivisme. Le positivisme, voyez ce que c'est, hein, en deux mots, l'idéologie positiviste. Ce n'est pas la science, mais c'est de faire de la science la connaissance suprême. Et quand Monod disait dans les rencontres internationales à Genève, quand Monod disait « L'éthique doit changer selon l'évolution de la biologie », il ramenait donc la philosophie et l'éthique fait partie de la philosophie, à la science biologique. Ça, c'est l'attitude de positiviste. Parce qu'il ne distingue plus la science biologique et l'éthique philosophique. Ramener la seule connaissance humaine à la science et aux sciences positives, c'est ce que veut faire Auguste Comte. Et Auguste Comte le dit avec une force étonnante. Il dit le positiviste cherche uniquement le comment. Le pourquoi, il le laisse aux enfants. À la métaphysique. La métaphysique cherche le pourquoi. Attitude infantile. Deuxième forme, le marxisme. Le marxisme est une idéologie athée, à partir de la praxis. Donc vous voyez, là on met en pleine lumière les sciences positives. Ici on met en pleine lumière la praxis. C'est vrai, le travail, c'est humain. Les sciences, ça fait partie de l'homme. Et on fait d'une partie un tout. Et on ramène l'homme et la personne humaine à ça. Troisièmement, Nietzsche. La position nietzschéenne, idéologie athée de Nietzsche. Parce que Nietzsche voit tout sur le point de vue de la créativité. Créativité artistique d'un grand artiste, Nietzsche. Nietzsche dit ceci, si Dieu existe, il est créateur. Or, je suis créateur. Autour de la création qui met l'opposition entre l'artiste et Dieu. 4. Sartre. C'est le néant, le primat de la négation. Pas la même chose. Et il met en pleine lumière ce que je crois être la modernité. Je ne développe pas ça, mais piste de recherche. La modernité. C'est intéressant. Qu'est-ce qui caractérise la modernité? On en parle tout le temps. Alors, le philosophe doit s'intéresser à ça. La modernité, c'est de mettre la négation en premier. On affirme et on nie. Selon la philosophie grecque, l'affirmation est première. Selon Sartre, la négation est première. Vous voyez ? C'est intéressant parce que ça fait comprendre comment la dialectique peut se développer grâce à cet aspect de la négation première. Alors, le néo-hégélianisme, Brunswick, vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est un assez, pour lui, Dieu est l'équation différentielle, parce que la connaissance mathématique est d'une pureté telle que c'est Dieu, c'est le Verbe, il le cite, au commencement était le Verbe, la connaissance mathématique. L'équation différentielle. C'est assez curieux. Mais c'est quelque chose de très particulier. Alors, d'une certaine manière, il ne nie pas Dieu, et d'une autre manière, il le nie, puisqu'il le met relatif à la connaissance mathématique. Vous voyez ? C'est plus Dieu. C'est impossible. Dieu doit saluer le mathématicien. Quelqu'un de très grand. Sixièmement, l'évolutionnisme absolu. Huxley, pas le grand, le petit Huxley, qui dit ouvertement que toute vie évolue. Et donc, si toute vie évolue, Dieu ne peut pas exister. Puisque l'évolution implique que tout soit relatif. Donc tout est relatif. Septièmement, Freud. La psychanalyse freudienne. Vous voyez, je crois que nous avons là les sept. Alors, oui, je montre. Le néo-hegelianisme. On va exalter la connaissance dans sa certitude la plus grande, connaissance mathématique. Évidemment, c'est proche du positivisme. Mais c'est un positivisme très élégant. Et très particulier. Les mathématiques ont une noblesse très spéciale. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est le néo-hegelianisme de Brunswick est comme ça, c'est l'absolu de la certitude. Alors, l'évolutionnisme absolu, c'est l'adaptation. Le vivant s'adapte. Le vivant est souple. Un des signes de la vieillesse, c'est de perdre la souplesse. Ça, c'est sûr. Quand vous commencez à avoir des difficultés de passer par en dessous, dans un chemin très, très... Vous dites, hein, ça vieillit les vieux os. Tandis qu'au contraire, quand on est jeune, j'ai vu des gosses de 6 ans en Suisse faisant du ski. C'était extraordinaire. Ils se retournent sur eux-mêmes, ils repartent sur ça. C'est une souplesse. Alors, je comprends l'adaptation. On s'adapte. Mais l'adaptation prise comme un absolu. Vous n'êtes intelligent que si vous adaptez. Soyez de votre temps. La suprême injure, c'est dire « Ah, vous croyez encore au Père Noël ?» Oui. Quelqu'un qui, à la place de regarder la relativité absolue, comprend qu'il y a des choses qui sont les mêmes. Mais c'est curieux que je peux lire Platon, je peux lire certains poèmes anciens, voir des dessins extraordinaires des grottes. Et je suis ému. C'est curieux. Pourtant, ça a évolué. Il n'avait pas l'électricité. Et Freud, alors on sait très bien, c'est découvrir dans l'homme le nœud le plus profond, complexe de type. Alors là, c'est moins vrai. C'est pas beaucoup comme exaltation. C'est Freud dans le déclin d'une civilisation. C'est pas Freud médecin, faisons attention. C'est Freud qui veut avoir une vision de l'homme. Le déclin de la civilisation. Vous voyez, ce qu'on voit. On confond toujours, quand le philosophe parle de Freud, il parle de la vision de l'homme qu'a Freud. Il ne parle pas de la méthode freudienne. C'est différent, ça. C'est deux choses vivantes, là, on peut discuter. C'est autre chose, la méthode freudienne pour la psychanalyse. Bon, cette grande forme, il y en a une huitième, c'est Hartmann. C'est curieux, c'est au point de vue éthique. C'est pour que l'homme ait sa pleine responsabilité. Si Dieu existe, l'homme n'est plus totalement responsable. Oui. Alors, au nom de cela, il faut supprimer. Pour laisser l'acte humain, l'acte moral dans toute sa force. C'est un moraliste. À la suite de Kant. Maintenant, je passe de la constatation philosophique à la constatation théologique. J'ai le droit de le faire. Je change de vitesse. Parce que je peux être philosophe et être théologien. Je peux être philosophe et puis croyant. Je me dis, c'est quand même curieux, toutes ces formes d'athéisme qui sont nées progressivement. Étienne Born dit c'est l'éclatement de la philosophie après Hegel. La philosophie a été tellement serrée dans un système qu'elle éclate dans tous les sens. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est vrai, c'est un éclatement de l'idéologie hegelienne. L'idéologie hegelienne n'est pas athée, puisqu'au contraire, la grande exaltation de l'homme, c'est dire qu'il est Dieu. C'est pour ça que le professeur que je connais bien, qui enseigne Hegel à la Sorbonne, dit ouvertement à ses étudiants, si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas ce que c'est que l'attitude religieuse, si vous ne savez pas ce que c'est que la foi, vous ne pouvez rien comprendre à Hegel. Et Karl Barth n'a pas hésité de dire, c'est intéressant, Karl Barth, un protestant qui était un très grand protestant, Karl Barth dit, le premier théologien luthérien, c'est Hegel. C'est un théologien. Premier théologien. Il a parlé de la très sainte Trinité comme personne d'autre, sauf peut-être Thomas d'Aquin. Il ne faut jamais oublier cette parole de Karl Barth, elle est très forte. Parce que Karl Barth, c'est quand même quelqu'un qu'on respecte dans le monde d'aujourd'hui, de la pensée, au point de vue théologique. Alors, au point de vue, je disais tout à l'heure, et je crois très fort, que ces athéismes sont des anti-mystiques. Et elles sont des oppositions aux béatitudes évangéliques. C'est ça qui est très curieux. Croyez bien que c'est pas du tout par a priori que j'ai dit ça. C'est en réfléchissant sur chacun de ces athéismes, je dis c'est curieux. Alors, il faut comprendre, pour mieux voir l'opposition, que les béatitudes évangéliques, à partir de saint Augustin, ont été rattachés aux sept dons du Saint-Esprit. De sorte que les sept dons du Saint-Esprit, qui sont les sept manières dont l'Esprit-Saint s'empare de l'homme pour en faire un saint, un fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint et qui sont fils de Dieu. Alors, le positivisme s'oppose aux dons de science. Regardez les béatitudes après. Marx s'oppose au don de piété. Nietzsche s'oppose au don de force. Sartre, le don de crainte. Le néo-hegelianisme. Ça peut paraître drôle hein, au début, vous allez réfléchir là-dessus. C'est une bonne petite méditation philosophico-théologique. Le point de vue, donc, de l'évolutionnisme absolu dans le néo-hegelianisme. Je me suis trompé. C'est le don d'intelligence. Et ici, le don de conseil. L'évolutionnisme. Freud, le don de sagesse. Et Hartmann, c'est différent. C'est une manière particulière d'exister. Je n'en parle pas pour le moment. Le don de science correspond à la béatitude de ceux qui pleurent. Parce que on voit qu'à la place de se servir des découvertes humaines, ça devient des idoles. On en fait des absolus. Et le don de science fait pleurer. Le don de piété, bienheureux les miséricordieux. Le don de force, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le don de crainte, bienheureux les pauvres. Le don d'intelligence, bienheureux les cœurs purs. Le don de conseil, bienheureux les doux. Sagesse, bienheureux les pacifiques. Alors, faites ce petit passage. Au-dessus, ceci, c'est ce qui me permet de comprendre le lien dans l'analyse. Vous voyez, quand vous regardez Freud, qu'est-ce qu'il cherche ? L'équilibre. Retrouver un équilibre. C'est ça. Vous voyez, la caricature du don de sagesse. Ce sont les caricatures des béatitudes évangéliques. Quand vous regardez le point de vue du néo-hégélianisme, l'équation différentielle, la limpidité de la connaissance mathématique. Caricature des cœurs purs du don d'intelligence. Quand vous regardez Sartre, le néant, la primauté du néant, caricature des pauvres, pauvreté de l'intelligence. Caricature de la crainte. Nietzsche, la créativité, le primat de la créativité, c'est bien le point de vue de ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire l'ardeur et la force, la conquête. Le positivisme, alors là, c'est l'exaltation de la science, je vous ai dit, le don, c'est le don de science qui fait pleurer. Et le marxisme, caricature de la béatitude des miséricordieux. Je ne dis pas plus, parce que je ne veux pas qu'on aille